C'est toujours une joie de réfléchir sur la parole de Dieu. Et aujourd'hui, je n'ai pas de texte de base réellement pour vous parler, mais j'aimerais vous proposer de nous confronter à un problème qui peut-être est finalement assez naturel pour vous et qui ne vous pose pas de problème. Mais des fois, les problèmes qui ne nous posent pas de problème, ben, ce n'est pas très intéressant. Et ici, en l'occurrence, c'est tellement naturel que peut-être qu'on ne se pose plus jamais un certain nombre de questions. Et j'aimerais essayer de répondre très partiellement à une question que nous nous posons peut-être quand même de temps en temps. Moi, je crois, et puis vous aussi, si vous êtes là, je suppose que vous croyez que la Bible est parole de Dieu. Ah, j'ai cru qu'il n'allait pas y avoir de réponse. Non, alors voilà. La Bible est parole de Dieu. Et je le crois, et vous, ou la plupart d'entre vous aussi, le croyez. C'est la parole écrite de Dieu, elle vient de Dieu, elle a autorité sur les hommes. Elle a autorité sur nous. Mais est-ce que vous vous êtes déjà demandé quel était le fondement d'une telle assurance? Sur quoi elle repose, cette assurance? Alors, bah, je ne sais pas, je vous pose cette question un petit peu à brûle-pourpoint. Ce n'est pas une question piège. Mais qu'est-ce que vous pourriez dire à ce sujet-là? La foi. C'est bien, ce n'est pas le foie, déjà. Mais encore... L'esprit de qui? De Dieu. Bon, c'est élémentaire, hein, tout ça, mais quand même, des fois, l'esprit de Dieu nous convainc. Est-ce que vous avez encore d'autres idées? C'est moi qui devrais vous apporter la prédication, hein, puis je vous piège. Enfin, je vous piège pas, mais est-ce que vous avez encore d'autres idées?
La cohérence du début à la fin.
Voilà, alors la cohérence, hein, ça c'est déjà un petit peu intellectuel, effectivement, la cohérence, la parole de Dieu est cohérente. J'ai pas entendu ? Alors, les prophéties, il y a dans la parole de Dieu des prophéties, effectivement, qui se sont réalisées et qui sont un indice pour nous faire penser qu'il s'agit de la parole de Dieu. Effectivement. Je vais encore évoquer trois idées qui peuvent faire qu'on croit ça. On peut se demander... Qu'est-ce que la parole de Dieu veut vraiment nous dire? Et on peut dire que... On peut penser que c'est tout ce que nous a dit l'Église de la parole de Dieu dans les 20 siècles qui ont précédé. Mais l'Église a dit beaucoup de choses fausses. Puis on peut... se demander aussi, est-ce qu'on ne pourrait pas se baser sur ce que nous pensons de la parole de Dieu? Tout ça, l'Église et nous, c'est très subjectif. Alors, ça pourrait être aussi ce que les auteurs bibliques ont affirmé. Hein, on prend un passage, on ouvre la Bible et on lit ce qu'un auteur a affirmé. Ah, ça, c'est la parole de Dieu. Et puis, on pourrait... parler de ce qu'ont pu ressentir les lecteurs, nous, hein, quand nous lisons la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, je vous propose de réfléchir sur une raison qui me paraît plus décisive. Ce qui justifie, je crois, avant tout, notre foi, ben, c'est ce que Jésus lui-même a dit. Et puisque Jésus a confirmé l'autorité des Écritures, ben, il faut que nous reconnaissions ensemble l'autorité de Jésus et l'autorité des Écritures. Ou alors il faut qu'on les rejette toutes les deux, parce que si on ne reconnaît pas l'un, ben c'est presque pas possible de reconnaître l'autre. Alors il y a certaines personnes qui diront oui, mais s'appuyer sur le témoignage de Christ pour démontrer l'autorité de l'Écriture, est-ce que c'est une bonne idée? Parce que ça pourrait donner l'impression d'entrer dans un cercle vicieux. Autrement, on pourrait parler d'un raisonnement circulaire. Je vous explique ce raisonnement circulaire. Comment est-ce que je peux savoir si l'Écriture est inspirée? C'était la question. Et la réponse est parce que Jésus-Christ l'affirme. Mais comment est-ce que je peux savoir que Jésus-Christ l'affirme? La réponse est parce que l'Écriture est inspirée. Ça marche pas, ça. Hein? Parce que, et finalement, on pourrait nous accuser de supposer vrai ce que nous cherchons à démontrer. Et c'est quand même déformer un petit peu l'argumentation, et je crois que ça vaut la peine de se pencher sur ce que Jésus lui-même dit de la parole. Lorsque, pour la première fois, on a lu la Bible, je ne sais pas ce qu'il en est de vous, mais moi, je n'ai pas eu de raison de la croire divinement inspirée au départ. Parce que peut-être que... On n'y voit qu'un recueil de documents historiques renfermant notamment le témoignage des chrétiens des premiers siècles concernant la personne de Christ. Et puis, la lecture de ce témoignage, toutefois, elle nous conduit à croire en Christ sans toutefois nous amener d'emblée à prendre une position bien nette vis-à-vis de l'Écriture, de son inspiration, de son autorité. Mais justement, le Christ dans lequel nous avons cru, nous commençons à croire, il nous renvoie à l'Écriture. Parce qu'il nous confirme lui-même l'autorité de l'Écriture. Et parce qu'il nous confirme cette autorité, il nous en donne aussi une nouvelle compréhension. L'Écriture, vous le savez, est faite de deux grandes parties, l'Ancien et le Nouveau Testament. Alors je vous propose de découvrir pendant quelques instants... comment le Christ a attesté l'inspiration et l'autorité de l'Ancien Testament. Parce qu'évidemment, à l'époque, il n'y avait que l'Ancien Testament et le Nouveau Testament était en formation. D'abord, on peut constater, si on lit attentivement l'Ancien Testament, que Jésus reconnaissait son autorité. Jésus reconnaissait l'autorité de l'Ancien Testament. Il s'est soumis lui-même avec respect à son autorité. Et j'aimerais vous proposer trois domaines dans lesquels il l'a fait, notamment. Jésus a soumis à l'autorité de l'Ancien Testament, d'abord, sa conduite à lui-même, sa conduite personnelle. Donc, dans sa conduite personnelle, Jésus nous a montré qu'il s'est soumis à l'autorité de l'Ancien Testament. Deuxième point que nous allons voir, Jésus s'est aussi soumis à l'Ancien Testament dans l'accomplissement de sa propre mission de Jésus. Et puis finalement, Jésus s'est soumis à l'autorité de l'Ancien Testament dans les controverses avec tous ses opposants. Alors voyons ces trois points, et je pense que ces trois points peuvent être très instructifs pour nous, parce que nous sommes appelés aussi à vivre à l'exemple de Jésus-Christ. Premier point, Jésus s'est soumis à l'autorité de l'Ancien Testament dans sa conduite personnelle. On le voit notamment dans les tentations qu'il a subies au désert. Ainsi, à chaque tentation du diable, ces tentations sont rappelées au début de l'évangile de Luc et au début de l'évangile de Matthieu aussi. Jésus a opposé la citation biblique qui convenait. On dit parfois que Jésus a cité l'Écriture au diable. En fait, il serait plus exact de dire que Jésus s'est cité l'Écriture pour lui-même en présence du diable. Quand le diable lui a offert tous les royaumes du monde, s'il se prosternait devant lui, et s'il l'adorait, Jésus lui a répondu « Retire-toi, Satan. En effet, il est écrit « Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et c'est lui seul que tu serviras. » On peut trouver ça dans Matthieu au chapitre 4 et au verset 10. Jésus a pris pour lui le contenu de ces textes. Il ne l'a pas destiné à Satan, il l'a pris pour lui. Il avait appris dans l'Écriture que l'adoration était due à Dieu seul. Et donc il obéissait à l'Écriture. En tant qu'homme, il adorait Dieu. Et il ne proposait pas d'adorer le diable. Le seul mot « il est écrit » lui suffisait à Jésus. Il n'y avait pas de raison de questionner, de tergiverser, de se demander. L'Écriture avait déjà réglé ce problème-là pour lui. Dans l'Écriture, Jésus se présente comme fils de Dieu. Sa soumission volontaire a toujours été avérée. Elle a été personnelle et il s'est personnellement soumis à la parole de son Père. Et ça, c'est très significatif. Alors, qu'est-ce que ça nous dit dans notre imitation de Jésus-Christ ? Eh bien, il y a un exemple encore pour nous dans la tentation. Jésus a dit à ses disciples, à la fin de sa vie, lorsque ça devenait vraiment encore plus difficile pour les disciples et pour lui, il a dit « Restez vigilants pour ne pas céder à la tentation ». L'esprit est bien disposé. L'esprit est bien disposé, mais par nature, l'homme est faible. On lit ça dans Matthieu 26, 41. Donc on voit que nous avons beau avoir des bonnes dispositions, notre nature est faible. L'apôtre Paul affirme ailleurs qu'aucune tentation n'est toutefois trop forte. Et avec la tentation, Dieu a aussi mis à notre disposition le moyen pour en être vainqueur. Mais ne l'oublions jamais, nous sommes faibles. Et c'est souvent lorsque nous avons l'impression d'être forts que nous sommes faibles. Alors, soyons encouragés par cette exhortation à veiller, à rester vigilants pour ne pas céder à la tentation, même si notre esprit est bien disposé. Donc, Jésus s'est soumis à l'Ancien Testament dans sa conduite, premier point, mais aussi, deuxième point, dans sa mission. C'est certainement l'étude de l'Ancien Testament qui a amené Jésus à la compréhension de son rôle messianique. Jésus savait qu'il était à la fois le serviteur souffrant du livre d'Ésaïe, qui représente tout un aspect de ce que Jésus est venu faire ici. Il est venu souffrir, il est venu mourir à notre place pour que la justice et l'amour de Dieu puissent se rencontrer à la croix, et pour que les deux puissent être efficaces pour tous ceux qui, comme nous, placent leur foi en Jésus-Christ. Et c'est un appel à placer clairement, et peut-être plus encore, notre foi, c'est-à-dire notre pleine confiance en Jésus-Christ, en ce qu'il a fait. Jésus a accepté de suivre un chemin de souffrance et de mort pour pouvoir entrer ensuite dans sa gloire. Et c'est ce qui explique peut-être le sentiment d'obligation et de contrainte qu'on trouve souvent en Jésus-Christ. Je vous lis un passage de Marc 8, 41. C'est peut-être la première fois qu'il commence à enseigner ses disciples au sujet de sa mort. Et ses disciples ne l'ont absolument pas compris. Ne les blâmons pas, mettons-nous à notre place. Ils sont devenus disciples de Jésus, et voilà que Jésus leur annonce quelque chose de totalement différent de ce qu'ils pensaient être le rôle de Jésus sur la terre. Et dans Marc 8, au verset 31, on lit « Alors, il commença à leur enseigner qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, par les chefs des prêtres et par les spécialistes de la loi, et qu'il soit mis à mort. » Et qu'il ressuscite trois jours après. Et bien sûr, c'est un écho, c'est là dans Marc, un écho à ce qui est dit du serviteur souffrant. Je vous recommande de lire peut-être, si vous avez une fois le temps pendant cette semaine, Ésaïe, depuis le chapitre 52, verset 13, jusqu'à la fin du chapitre 53. C'est très éloquent. C'est à cause de nous. C'est pour nous racheter que Jésus a dû souffrir. Alors on peut se demander pourquoi Fallait-il ? Eh bien, parce que l'Écriture l'avait dit, et parce que Jésus se soumettait pour sa mission à cette Écriture, de manière délibérée et involontaire, et volontaire. Jésus a assuré ce lien avec l'Écriture, tant par sa conduite, on l'a vu, que par sa mission. Et c'est pourquoi, lorsque Pierre a tenté d'empêcher son arrestation dans le jardin de Gethsémané, au moment de la Passion, Jésus lui a dit de remettre son épée, de l'arranger. Il n'avait besoin d'aucune protection humaine. En effet, ne pouvait-il pas demander à son père des légions d'anges pour le défendre ? Mais Jésus ne l'a pas fait, car Jésus le disait lui-même. Comment donc s'accompliraient les Écritures d'après lesquelles il doit en être ainsi ? On lit ça dans Matthieu aussi, au chapitre 26 et au verset 54. Et après la résurrection de Jésus, Jésus a encore fait part du même souci. Il a dit aux disciples d'Emmaüs d'abord, puis à un groupe de disciples plus importants, « Ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire ?» Ces deux étapes ont été réalisées par la mort et la résurrection de Jésus-Christ pour nous. « C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, » disait Jésus, « car il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. » On lit ça notamment dans les versets 26 et 44 du chapitre 24 de l'évangile de Luc. Ça, c'est aussi un beau passage que nous pouvons relire et dont nous pouvons tirer plein d'encouragement. C'était la mission de Jésus, mais qu'en est-il de notre mission ? Est-ce que nous avons aussi une mission ? Ben, nous avons une mission de communiquer cette œuvre extraordinaire que Jésus-Christ a faite pour nous. Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie, avons-nous dit tout au début de cette rencontre. Et les autres, à qui est-ce qu'ils doivent aller ? Ben, si nous avons trouvé ça si extraordinaire, et c'est vrai que c'est quelque chose qui nous dépasse totalement, alors nous sommes vraiment appelés à le communiquer à d'autres pour qu'ils puissent aussi prendre conscience de cette œuvre extraordinaire de Jésus et qu'ils puissent aussi la communiquer à d'autres. Alors, notre mission, que suis-je appelé à faire ? Le Seigneur m'appelle à communiquer cela par mon attitude. Le Seigneur appelle à le communiquer par mes paroles. Et Dieu s'exprime à ce sujet-là dans toute sa parole. On trouve beaucoup de passages dans des textes qui sont des fois directs et qui sont des fois généraux. Et l'un des textes généraux remarquables est le psaume 32, point 8, parce que c'est une promesse. Et c'est une promesse directe de la part de Dieu au psalmiste, et donc aussi à nous qui lisons ce psaume. Dans cette promesse, il est dit « Je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. » C'est extraordinaire de savoir que Jésus, au quotidien, nous fait une promesse de nous instruire, de nous conseiller. Il nous dit même qu'il a le regard sur nous. Il nous regarde quand du lundi au vendredi nous travaillons, que le samedi nous nous reposons, que le dimanche nous sommes ici. Dieu nous regarde et Dieu cherche à nous instruire et à nous conseiller pour que nous puissions accomplir la mission qu'il veut que nous accomplissions sur cette terre. Alors, notre mission est loin d'être pareille à celle de Jésus, mais nous avons cette mission d'ambassadeur, de réconciliateur, d'intermédiaire, d'ouvreur de portes, de poteaux indicateurs. Il y a toutes sortes de comparaisons qui nous montrent ce que nous pouvons être devant les autres, dans la vie des autres. Et puis, Jésus, parce que quand nous nous frottons aux autres, évidemment, il y a de la controverse dans l'air. Eh bien, Jésus se soumettait aussi à l'autorité de l'Écriture dans ses controverses. Parce que de continuelles polémiques l'opposaient aux chefs religieux d'alors. Et lorsque Jésus subissait, lorsque surgissait entre eux des controverses, Jésus considérait l'Écriture comme son unique référence. Alors il y a deux manières de faire des controverses quant à l'Écriture. Il existe l'option d'en rajouter et il existe l'option d'en supprimer. Alors, lorsque un spécialiste qui cherchait à le mettre en difficulté, en lui posant une question déterminante concernant la vie éternelle, Jésus a répondu « Qu'est-il écrit dans la loi ? Qu'est-ce que tu y lis ?» On lit ça dans Luc, et au chapitre 10, les versets 25 et 26, la question posée à Jésus était une question relative à la vie éternelle. C'était donc une question importante. Et à cette question importante, Jésus a ramené le pharisien qui la lui posait vers cette question. Qu'est-ce que tu lis dans la loi de l'Éternel ? Comment la comprends-tu ? Alors, justement, Jésus avait du respect pour l'Écriture. Les pharisiens et aussi les sadduciens, eux, ils la respectaient moins. Les pharisiens avaient la tendance à en ajouter et les sadduciens, eux, avaient tendance à retrancher des choses. Et c'est une tendance encore très très actuelle aujourd'hui. D'ailleurs, nous devons faire nous-mêmes attention à ne rien rajouter à l'Écriture et à ne rien en rejeter. Dans Marc 7, les versets 9 à 13 s'adressent aux pharisiens et voilà ce que Jésus leur dit. « Vous rejetez très bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. En effet, Moïse a dit « Honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais d'après vous, si un homme dit à son père ou à sa mère « Tout ce que j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu », alors il ne peut plus rien faire pour son père ou pour sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu par la tradition que vous avez établie et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. » Voilà ce qu'il disait aux pharisiens qui avaient tendance à ajouter à l'Écriture. À ceux qui avaient tendance à enlever des choses de l'Écriture, les Sadducéens ne croyaient pas en la résurrection. Pourtant, il est question de résurrection dans l'Écriture. Alors, ils ont posé une question piège, abracadabrante, avec une histoire d'un monsieur qui s'était marié, qui a perdu sa première femme, qui, pour apporter une postérité à son frère, il a épousé sa femme, etc. Enfin, il a épousé jusqu'à 7 femmes, et la question était de savoir, au ciel, qui serait sa femme. C'est vrai que c'est une question de terrien, mais c'est pas tellement une question de quelqu'un qui croit au ciel. Et Jésus leur a dit, vous êtes dans l'erreur, parce que vous ne comprenez ni les Écritures, qu'ils avaient pourtant lues, mais ils voulaient retenir ce qu'ils voulaient bien, ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Parce que Dieu a démontré plus tard, certes, qu'il avait la présence de ressusciter quelqu'un d'entre les morts, puisque Jésus est le premier d'entre tous ceux qui sont ressuscités pour toujours d'entre les morts. Alors, et nous dans nos controverses alors avec ceux qui ne sont pas d'accord avec nous? Est-ce que nous avons aussi tendance à ajouter ou à enlever des choses de l'Écriture? On pourrait dire à filtrer. Je crois que c'est assez naturel quand même. Il faut le reconnaître que les hommes et les femmes mettent des filtres et nous en avons certainement déjà mis. Et nous voulons demander au Seigneur, demander pardon pour avoir facilement filtré l'Écriture. L'apôtre Pierre nous encourage lorsque nous sommes dans les controverses. Et il dit, soyez toujours prêts à défendre l'espérance qui est en vous devant tous ceux qui vous en demandent raison. Mais Faites-le avec douceur et respect, en gardant une bonne conscience, afin que là même où il vous calomnie, comme si vous faisiez le mal, ceux qui critiquent votre bonne conduite en Christ soient couverts de honte. Alors ce n'est pas la honte des autres qu'on doit rechercher, mais la honte peut être le résultat de cette douceur, de cette manière, respectueuse, de cette manière où nous gardons une bonne conscience lorsque nous parlons de ce que le Seigneur a fait pour nous. On peut donc dire que, sans aucun doute, Jésus était personnellement soumis à l'Écriture, et cela doit nous encourager. Ses normes morales, la vision qu'il avait de sa mission, et ses réponses dans les controverses qu'il opposait aux Juifs, tout cela lui était dicté par l'Écriture. Lui-même disait dans Jean 10, 35, « L'Écriture ne peut être anéantie ». Et dans Matthieu 5 et au verset 18, on lit « En effet, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre n'auront pas disparu, pas une seule lettre, ni un seul trait de lettre ne disparaîtra de la loi avant que tout ne soit arrivé. » Christ, Jésus-Christ, n'a jamais contesté l'origine divine de l'Ancien Testament. Même contrairement à ce que certains croient lorsqu'ils disaient, justement dans le sermon sur la montagne, dans les occurrences où il a dit « Vous avez lu ce que Jésus a dit, plutôt, vous avez entendu qu'il a été dit, point de suspension, mais moi je vous dis ». Et là, certaines personnes ont eu l'impression que Jésus cherchait à contredire la loi. En fait, il n'en est rien. Jésus n'était nullement en désaccord avec Moïse, mais il était en désaccord avec la fausse interprétation des paroles données par les scribes. Il ne s'opposait pas à l'Écriture, parole de Dieu, mais à la tradition qui était parole des hommes. Et nous devons bien faire cette différence aussi aujourd'hui entre ce qui est la Bible et entre ce qui est ses commentaires. Et il est très bon d'avoir des commentaires de la Bible, mais il ne faut pas donner la force de loi aux commentaires. Il faut continuer à donner la force de loi à la Bible. Jésus acceptait l'autorité de l'Ancien Testament. Il y a soumis sa conduite. Il y a soumis sa mission et aussi son attitude dans les controverses avec tous ceux qu'il remettait en question. Alors, je pose la question, comment ses disciples pourraient-ils faire autrement ? Nous sommes appelés à suivre le cheminement qu'il a suivi. Et je prie le Seigneur qu'il nous accorde de savoir mieux le faire. Quand je lis l'exhortation de l'apôtre Pierre, je me sens profondément repris, parce que souvent je n'ai pas défendu la cause de Christ de la manière qu'il fallait, parce que souvent c'était trop brutal, c'était en utilisant l'un ou l'autre texte qui me venait à l'idée, c'est-à-dire en mettant mon filtre. Mais j'aimerais prier le Seigneur pour conclure. Seigneur, nous avons besoin d'être plus proches de toi, de nous inspirer davantage de l'Écriture, de la lire, de la faire plus nôtre. Nous te demandons pardon pour les fois où nous ne l'avons pas fait clairement, et nous te demandons ton aide, parce que sans ton aide, Seigneur, c'est impossible. Seigneur, à qui irions-nous ? C'est toi qui as les paroles de la vie. Nous le croyons fermement, et nous voulons continuer à le croire, et nous voulons continuer à nous laisser inspirer par toi, par ton esprit qui veut bien habiter en nous, Seigneur. Alors, continue à te révéler de manière à ce que nous puissions le comprendre d'une manière toujours plus profonde. Et nous présenter dans la mission que tu nous as donnée, dans les controverses auxquelles nous sommes confrontés, avec cette aide de l'Écriture, en sachant que nous voulons fermement compter sur toi. Amen.